dans le Petit Stop à midi et à compter de 14 heures.
Ta bière de micro, tu l'aimes locale? Ben, c'est comme ta radio. Des animateurs qui se retrouvent sur les mêmes terrains de soccer que toi pis tes kids, qui vont au même dépanneur, qui vont voir les mêmes shows pis qui restent pognés dans le même trafic que toi. Boulevard 102.1 Québec, c'est chez nous.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer une belle soirée ensemble, un bon 60 minutes, puisque ce soir, j'ai une invitée que vous avez déjà vue à la télé, que vous avez régulièrement entendue, que vous avez vu passer dans les dernières années aussi, parce qu'elle a fait un bref passage en politique. C'est Jocelyne Cazin. Bonjour, comment allez-vous, Mme Cazin?
Bonjour Yannick. Quand vous dites bref passage, en fait, je n'ai fait que passer parce que je me suis présenté dans le comté de Chauveau, donc dans la région de Québec, mais je n'ai pas été élu. Alors, c'est vraiment un courant d'air, tiens.
Oui. Est-ce que vous vous êtes toujours intéressé à la politique là, quand vous étiez jeune? Est-ce que Jocelyne Cazin rêvait un jour de faire de la politique?
Non, je n'ai jamais rêvé de faire de la politique. C'est la politique qui est venue me chercher. Il y a différents partis politiques qui m'ont sollicité dans différentes années, à différents moments de ma vie. Par contre, j'ai couvert la politique, moi, dans les années 80, à l'époque où je travaillais pour TVA. Parce que, vous savez, avant de faire JE, je faisais autre chose. J'ai donc été courriériste parlementaire avant. Dans les années 80.
Et ça vous a pas dissuadé de vouloir faire de la politique? Normalement, quand on voit ces gens-là, on se dit, parce que au quotidien, moi, avec mon travail, nécessairement, je dois leur jaser régulièrement et tout ça, puis je m'aperçois qu'être un politicien ou une politicienne, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est de mettre un peu sa vie personnelle de côté pendant un bon mandat de 4 ans. On a beau être parfois critique à leur égard, on se fera pas de cachette. Quand on est un ministre, exemple, la vie personnelle, il reste très peu de place.
Oui. Quand vous dites un peu, moi, je dirais même beaucoup, c'est épouvantable. Et d'ailleurs, honnêtement, je trouve ça tellement désolant qu'on respecte de moins en moins les politiciens, qu'on soit violent. Vous avez vu ces derniers temps, on assaille les politiciens, on les agresse physiquement. Ça n'a aucun sens. Si on veut rester dans une démocratie saine, ça prend des politiciens, ça prend des gens qui veulent se lancer en politique, mais pour ça, il va falloir qu'on les respecte un peu plus. Et moi, je vais vous dire, j'ai pas voulu aller en politique, on m'a sollicité, et la dernière fois où j'ai dit oui, ça a été avec François Legault, il m'a vraiment pratiquement tordu un bras, et ce fut peine perdue pour lui, malheureusement. Il avait choisi le mauvais comté ou la mauvaise circonscription pour moi.
OK. Puis, mais c'est ça, lorsque vous étiez dans vos jeunes années, là, dans vos premières années de journalisme, vous aviez à côtoyer les politiciens. Est-ce que dans votre tête, un jour, ça pouvait être possible qu'une Jocelyne Cazin puisse faire de la politique?
Non.
Parce que vous êtes une excellente communicatrice. Je veux dire, vous aviez ce don-là de communicateur déjà?
Ben, j'ai commencé à communiquer, moi, très, très jeune. Au restaurant de ma mère, je servais les corbeilles à pain. J'avais 8 ans. Probablement qu'aujourd'hui, on appellerait la DPJ, là. Une enfant de 8 ans qui travaille au restaurant.
Ouais.
Mais non, moi, jeune journaliste, j'étais beaucoup plus aux faits divers. D'ailleurs, j'ai été la première femme aux faits divers, journaliste aux faits divers au Québec. Alors, j'ai couvert les faits divers, j'ai couvert toutes sortes de dossiers, que ce soit à la radio ou à la télé. Et finalement, j'ai finalement couvert la politique provinciale. J'ai même couvert la politique au fédéral de temps en temps pour remplacer le courriériste parlementaire de l'endroit. Mais non, je n'ai jamais rêvé de devenir politicienne. Sincèrement, vous savez, quand on regarde ce que vivent les politiciens, malheureusement, et là encore plus aujourd'hui, on a de moins en moins le goût de se lancer en politique. Mais encore une fois, je le répète, Yannick, si on veut garder notre démocratie, il va falloir qu'on les respecte un peu plus, ces politiciens, parce que moi, je les ai vus travailler à l'époque, dans les années 80. quand j'étais à Québec, je les voyais travailler. Ils travaillent, je m'excuse de prendre une expression très québécoise, ils travaillent comme des bœufs. Ils travaillent vraiment comme des esclaves, pratiquement. Alors, il va falloir qu'on regarde un peu plus ça, comme il faut, et puis qu'on se dise, ouais, OK, on va essayer de respecter un peu mieux.
Madame Cazin, on va revenir au tout départ. Vos parents, c'était des gens qui venaient de la France, sont venus s'établir au Canada dans les années 50. Vous étiez tout jeune à l'époque, je pense que vous aviez autour de 18 mois, là, donc vous n'avez pas de souvenir de ça.
En 1952, ils sont arrivés par bateau. Ils sont partis du Havre en Normandie pour arriver à Halifax. Et de Halifax, ils ont pris le train pour arriver à Montréal. On les a envoyés dans un centre d'emploi. Ouais. Et puis le centre d'emploi les a envoyés travailler dans une ferme de producteurs de porc à Saint-Valérien de Milton. Alors, je ne sais pas si vous avez lu mon dernier livre, Funeste récolte,
oui.
Mais il y a une partie de l'intrigue, justement, qui se déroule à Saint-Valérien de Milton, dans une ferme des agriculteurs. Alors, j'ai choisi Saint-Valérien de Milton justement à cause de... Parce que vous savez, on choisit des personnages, on choisit des lieux, des sujets, ouais. Un peu par rapport à notre propre vécu. Alors, Saint-Valérien de Milton, c'est entre... Saint-Valérien de Milton, c'est pas très loin de Saint-Hyacinthe, puis c'est entre Montréal et Québec.
Et pourquoi vos parents avaient choisi le Canada? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont quitté la France?
Ah bien, ça, c'est dans ma véritable identité. Je raconte ça dans ma biographie, mais je vais vous en dire un petit peu. C'est que mes parents n'étaient pas du même rang social en France. Et je ne sais pas si vous savez, mais la hiérarchie est très importante en France et elle l'était encore plus dans les années 50. Et du côté de mon père, c'était des bourgeois. Et du côté de ma mère, ben, c'était des prolétaires. C'était des gens qui travaillaient pour des bourgeois. Et quand mes parents se sont rencontrés, ils sont tombés en amour. C'est vraiment un mariage d'amour.
Ouais.
Mais mes grands-parents Cazin, surtout ma grand-mère, n'a pas accepté que mon père puisse se lier avec ma mère. Alors, ils ont 2 ans plus tard, ben, comme ma mère avait déjà un frère au Québec, et comme au Québec, ça parlait, je dis bien, entre guillemets, français, eh bien, ils sont venus au Québec tout naturellement.
Et quand vous dites entre guillemets, je comprends que vos parents ont pris, comme on dit ici, un bon 2 minutes là, quand ils sont arrivés en disant « Mais de quelle langue ils parlent, ces gens-là? » Ça devait être assez particulier dans les années 50.
Surtout quand ils se sont trouvés dans cette ferme porcine à Saint-Valérien de Milton. Alors, évidemment, l'accent québécois est beaucoup plus accentué, beaucoup plus fort. Alors, évidemment, ils ne comprenaient rien du tout. Et puis, ma mère, même, je pense qu'elle m'a déjà dit, mais très rapidement, elle m'a déjà dit qu'elle avait fait une courte dépression. Et d'ailleurs, vous savez que contrairement à ce que l'on pense, beaucoup de Français, dans les 5 premières années de leur arrivée au Québec, repartent en France. Parce qu'il y a tellement de différences. On pense qu'on parle la même langue, mais vous savez, on ne parle pas tout à fait la même. Nous, on parle québécois ici en France, ils parlent le français, mais dans chaque région de la France, comme dans chaque région du Québec, il y a différents dialectes, il y a différents dictons. Alors, il y a la langue, il y a aussi la façon de travailler. Les Français ne travaillent pas du tout comme les Québécois. Ici, on travaille à la nord-américaine. On est très rapide, on est efficace. En France, ça prend le petit verre de vin le midi, ça prend son temps. Enfin, bref, il y a tellement de disparités et de différences, si bien qu'il y a beaucoup de Français qui se décrivent. Je me souviens, il me semble que j'avais fait une émission là-dessus à l'époque de danslamire.com à TVA, et il me semble que c'était comme au moins 50% des Français qui venaient au Québec pour s'installer et qui malheureusement repartaient dans les 5 premières années. C'est quand même effrayant, là.
Oui. Et dans votre cas, lorsque vous êtes arrivé à la petite école, ça ne devait pas être évident non plus. Vous aviez un accent très prononcé. Vos parents parlaient un français pratiquement oui. impeccable. Pour vous, ça ne devait pas être évident au départ de communiquer avec les gens qui vous entouraient,
là. Non seulement ça n'a pas été évident. Moi, j'ai été la maudite Française du village. J'ai été intimidée, on appelle ça du bullying, là, de l'intimidation.
Ouais.
Alors, j'ai vécu mon enfance très difficilement, tellement, Yannick, je pense que c'est en 4e année où j'ai demandé à être pensionnaire l'année suivante. Puis quand je suis arrivée au pensionnat, Évidemment, j'avais encore un petit accent français que j'essayais d'étouffer, si vous voulez. Et quand on me demandait, parce que j'avais quand même un drôle d'accent, et quand on me demandait d'où je venais, je disais que je venais de la Gaspésie.
C'est un mensonge qui pouvait peut-être vous aider, effectivement. Mais je veux dire, le vocabulaire des Français, puis on le voit tout de suite, là, quand on rencontre un enfant français versus un enfant québécois, l'enfant français a un vocabulaire qui est extrêmement élaboré, tandis qu'au Québec, on a tendance des fois à utiliser le même mot qui veut dire plein de choses. Tu sais.
Oui, malheureusement, mais ça, c'est une question d'instruction. Et malheureusement, au Québec, puis j'ai fait des émissions là-dessus au début des années 2000, puis il s'avère que les chiffres sont encore à peu près les mêmes à la Société d'alphabétisme du Québec. Il y a 49 % des Québécois qui sont analphabètes techniques. C'est quand même pas peu dire, là. C'est triste, mais on ne valorise... Le problème qu'on a chez nous ici, c'est qu'on ne valorise pas l'instruction. On ne valorise pas l'éducation. Alors, mais ça, c'est un autre sujet, là. Vous pourrez m'inviter pour un autre débat là-dessus.
Oui, mais je trouve ça quand même intéressant d'en jaser parce que vous avez quand même une bonne expérience de vie. Puis d'avoir des fois des remarques des gens qui ont une bonne expérience de vie, ça nous donne un éclairage peut-être tout autre que celui qu'on peut avoir quand on est dans la jeune vingtaine, la jeune trentaine, la jeune quarantaine, quoiqu'à 70 ans, on est encore très, très jeune.
Ah ben absolument. Bon. Vous savez qu'un 70 ans d'aujourd'hui, c'est comme... il y a 15 ans, c'est 50 ans à peu près. Alors, c'est quand même formidable. Et, puis, vous savez, on nous appelle les aînés à partir de l'âge de 65 ans. Puis la FADA, qui est la Fédération de l'âge d'or du Québec, remet une carte de l'âge d'or à l'âge de 50 ans. Alors, à quel âge devient-on aîné? Ben moi, je dirais que c'est vraiment personnel, c'est à soi-même. Moi, personnellement, je ne me considère pas encore comme une aînée, même si j'ai 73 ans, Yannick.
Madame Cazin, comment vous avez pris la décision de travailler dans le journalisme? Comment l'idée vous est venue?
Ah, c'est une très, très bonne question. Alors, je vous disais, ma maman, elle avait un restaurant. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que ça se sait un peu. Ma mère a ouvert le premier restaurant français à Saint-Sauveur-des-Monts en 1954. Et évidemment, un restaurant français dans les Laurentides, ça n'existait pas. Et ça n'existait pas beaucoup de toute façon partout au Québec. Si bien qu'elle recevait beaucoup de la classe politique, des médecins, des journalistes. Et un des journalistes qui était un client régulier, ça a été Bernard de Rome. Il y a aussi eu Manuel Maître, qui a été un éditeur au journal La Patrie, qui est l'ancêtre du journal La Presse. Il y avait Robert Gadois, André Lachapelle, Michel Forget. Enfin bref, il y avait beaucoup du monde intellectuel, journalistique et artistique. Et donc, à parler avec ces gens-là, à un moment donné, je parlais beaucoup avec Bernard de Rome, avec Manuel Maître. Ça m'a donné le goût. Mais moi, je voulais surtout être avocate pour la délinquance juvénile.
OK.
Mais j'ai ouvert au secondaire, j'ai ouvert avec un petit compagnon la radio scolaire, comme ça existe maintenant dans toutes les écoles secondaires.
Ouais.
Donc, j'étais l'animatrice du midi. OK. J'étais la disc jockey et tout ça. Puis, je donnais aussi les nouvelles. Et à un moment donné, le directeur de l'école m'a convoqué à son bureau puis m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Jocelyne? » Alors, j'ai dit « Ben, je vais être avocate. » Ben, il dit « Tu pourrais t'en aller dans les communications parce que t'es bonne en ondes. » Et c'est comme ça que ça a germé. Et je suis allée à l'Académie nationale des annonceurs. Après ça, j'ai fait un certificat que j'ai même pas complété en journalisme et information à l'Université de Montréal parce que j'étais déjà sollicitée dans les années 70 par une station de radio. Alors voilà, voyez. Et puis aussi, j'étais beaucoup dans le milieu du ski, étant donné que j'étais à Saint-Sauveur-des-Monts. Alors je faisais les rapports de ski avec Guy Thibodeau à la radio et tout ça. Et c'est par la porte du ski que finalement, de fil en aiguille, j'ai eu des propositions.
Quand je jase avec mes collègues féminines qui sont avec moi à la radio, moi, j'ai toujours pris ça pour acquis que les femmes étaient l'égale des hommes et qu'il n'y avait pas de différence entre un collègue homme et un collègue femme. Mais c'est parce que vous êtes passé avant qu'on en est rendu là aujourd'hui, ouais. Où les femmes sont très bien acceptées dans ce milieu-là. Pour nous, on considère ça comme acquis parce qu'on a toujours grandi là-dedans. Mais dans votre cas, j'imagine que vous avez eu le vent d'en face au début de votre carrière parce que vous étiez une femme.
Oui, mais pas juste le vent, la tempête, le tsunami au complet parfois. Parce que des femmes, on n'en voulait pas dans le domaine de l'information. Moi, au début des années 70, quand j'ai commencé à solliciter des emplois comme journaliste, il y a un directeur d'information d'une station de radio, je n'aimerais pas laquelle, qui m'a dit « Jamais on aura une femme à l'information ». Une autre année, je sollicite encore un emploi, puis le directeur de l'information de la station de radio, il me dit « OK, on va faire un test ». Alors, je rentre dans ce qu'on appelle le booth de son, là, le studio de son, et il me dit dans mes oreilles « Est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu une voix d'homme en ondes? » Alors, savez-vous ce que je lui ai répondu, Yannick?
Qu'est-ce que vous lui avez
dit? Je suis désolée, j'ai pas ce qu'il faut entre les deux jambes.
Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il vous a embauché par la suite?
Non. Il m'a presque mis dehors, manu militari. Et finalement, il y a eu quand même des êtres extraordinaires qui ont fini par me faire confiance. Notamment, Pierre Arcan, moi, je travaillais de nuit à CKVL à ce moment-là.
Ouais.
Et une nuit, Pierre Arcan m'appelle pour me dire « J'aime bien votre voix. » Parce que c'était beaucoup une question de voix. Puis, honnêtement, je pense que je suis chanceuse d'avoir une voix plutôt alto, donc une voix plus grave et qui apparemment sonne mieux à la radio. Mais donc, il ne m'a pas engagée pour mon talent, il m'a engagée pour ma voix. Mais c'est quand même Pierre Arcan qui, vous le savez, bon, a été patron à CKAC Télémédia, mais et qui éventuellement a mal tourné, il est devenu politicien. et c'est lui qui a fait de moi la première femme au fait divers à l'information au Québec.
Ça devait être une fierté pour vous à cette époque-là, puis vos parents aussi devaient être extrêmement fiers de leur fille d'être précurseur dans le merveilleux monde des médias?
Oui, fierté, mais j'avais pas le temps de penser à la fierté parce que je me battais tous les jours pour faire ma place. Et ça, c'était moins drôle, pour vous dire la vérité, Yannick. J'ai vécu quand même des moments assez difficiles. Moi, je peux vous dire que de temps en temps, je rentrais chez moi en pleurs. Les instincts suicidaires, j'en ai eu parce que j'avais pas l'impression que je pouvais être utile dans ce monde-là. Et fait que ça n'a pas été facile. Mais heureusement, comme je vous dis, il y a eu quelques personnes qui m'ont beaucoup aidée. Et puis heureusement aussi que j'étais bien entourée d'amis. Alors ça m'a aidé à survivre aussi à ce moment-là.
Avec le métier que je fais, puis avec ce type d'entrevue-là, je reçois souvent des personnalités, puis très souvent, on me revient souvent avec le sentiment d'imposteur. Des gens qui, à mes yeux, à moi, ont très bien réussi, mais encore à ce jour, n'ont pas l'impression qu'ils méritent ce qui leur est arrivé ou qu'ils méritent leur carrière, qu'ils méritent leur succès ou encore qu'ils méritent l'amour du public. C'est curieux, ça, qu'on ait ça. Est-ce que c'est uniquement au Québec? C'est-tu parce qu'on a toujours été élevé comme étant, je sais pas, moi, on est né pour un petit pain, on mérite pas tout l'amour que les gens peuvent nous porter? Est-ce que vous avez ressenti ça dans votre carrière?
Ah ben moi, ben fréquemment, presque tout le temps. Surtout que moi, j'ai pas de diplôme universitaire. Imaginez-vous, moi, à l'école, j'étais beaucoup plus... j'étais première dans les activités parascolaires, OK? Alors, j'étais pas une première de classe. J'étais dans la moyenne, d'accord? Parce que je réussissais à passer d'une année à l'autre. Mais bon, comme je vous dis, j'ai entamé mon certificat en journalisme et information à l'Université de Montréal que je n'ai pas terminé. Finalement, je suis allée chercher un certificat en rédaction française et aussi en relations publiques, parce que je voulais quand même améliorer mon sort. Mais le syndrome de l'imposteur, écoutez, ça fait partie de l'ADN de Jocelyne Cazin, ça. Ouais. D'ailleurs, le sentiment... Moi, je vais vous dire, je suis l'expression parfaite de l'imperfection. OK? Let's put it that way, comme on dit. Le syndrome de l'imposteur, le sentiment de rejet, l'insécurité, ça fait partie de mon ADN, même si je sais que les gens ne croient pas ça parce que j'ai l'air d'un pitbull. D'ailleurs, on m'a appelé la pitbull de l'information à TVA. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est dans mes gènes, à cause probablement de mon enfance qui n'a pas été nécessairement un jardin de roses. Mais et puis j'ai grandi avec ça. Alors, et je pense, moi, que tous les gens, en tout cas beaucoup de gens en communication, sont faits de la même pâte, c'est-à-dire des gens extrêmement insécures qui ont besoin d'être valorisés, qui ont besoin d'être aimés, et ceux qui me disent le contraire, soit que ce soit des inconscients ou des menteurs.
Ouais. Mais en vous écoutant au début de votre carrière, les choses que vous avez vécues, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que vous n'avez pas abandonné, alors qu'il y a des gens qui ont malheureusement abandonné puis qui auraient pu connaître une très bonne carrière. Peut-être que c'est en raison aussi du fait que quand vous êtes arrivé au Québec avec votre famille, vous avez dû faire votre place, ça n'a pas été facile, donc ça a forgé votre caractère. Puis à un moment donné, ben, se faire tout le temps fermer la porte au nez, ça devient une habitude, puis ben, on prendra la porte qui restera ouverte, puis on mettra le pied dedans, puis on réussira à rentrer dans la pièce. Je pense que c'est ça qui a forgé votre caractère. C'est votre jeunesse, en fait.
Votre analyse est excellente, Yannick. Vous feriez un bon psychologue. Non, mais c'est vrai. Nous sommes le résultat de ce que nous avons été. Et moi, ce que je dis souvent, parce que vous savez, je donne des conférences, et ce que je dis souvent, c'est que d'abord, moi, j'ai choisi d'être une battante plutôt qu'une victime. Et probablement, inconsciemment, dès mon jeune âge, j'ai dû me dire quelque part, vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas, je vais faire mon chemin. Et j'ai fait mon chemin. Et aux jeunes qui nous écoutent, s'il y a des jeunes qui nous écoutent actuellement, je leur dis, il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais lâcher, il faut avoir des projets, parce que je dis souvent aussi, pas de projet, pas de vie, et il faut aussi avoir quelque part un mentor. Moi, vous savez, le directeur de l'école secondaire Augustin Norbert Morin, dans le temps, ça s'appelait Mont-Roland, aujourd'hui c'est Sainte-Adèle, il m'avait encouragé à aller en communication. Donc, il y a quelqu'un, même si je n'étais pas formidable en classe, il y a quelqu'un qui a cru en moi. Et je pense que ça, c'est important. Puis moi, je dis souvent aux parents, même si votre enfant, votre fille, votre fils n'est pas bon à l'école, faites-lui confiance, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose quelque part qui va bien lui aller.
Vous avez changé de médium. À un moment donné, vous êtes passé de la radio à la télé. Ça a été, un gros step supplémentaire, on va se le dire, parce que la radio, on est seul dans notre studio où on est avec des collègues qu'on connaît très bien. On est un peu isolé. À votre époque, c'était peut-être un peu plus formaté qu'aujourd'hui. Mais la télé, c'est extrêmement formaté. C'est des caméras. On parle à un objectif plutôt que de parler à notre collègue. Ça a dû être une étape, ça, pour vous.
Ah ben oui, mais encore une fois, j'ai pas choisi d'aller à la télé. C'est la télé qui est venue me chercher. Parce que moi, honnêtement, plus jeune, j'étais pas, vous savez, j'étais pas le style mannequin et tout ça. Je ne me maquillais pas, je ne me coiffais pas. Je portais des jeans. J'étais plus tomboy, si vous voulez. Et donc, c'est la télé qui est venue me chercher. Et d'ailleurs, je vais vous faire sourire parce qu'au bout de 6 mois, le patron Charles Relais, que je salue parce que ça a été un être extraordinaire avec moi, m'avait dit, Jocelyne, tu ressembles à Laura Secor. Il dit, t'aurais intérêt à aller à descendre au 3e sous-sol puis aller au maquillage, coiffure, parce que, honnêtement, tu sais, tu passes pas bien à la télé. Tu passes bien au niveau du contenu, mais le contenant, ça fait dur. Alors, voyez-vous, et la télé, c'est une image. Moi, j'ai fait les nouvelles aussi pendant quelques temps. Ouais. Puis les gens, ils n'écoutent pas les nouvelles, ils regardent les nouvelles. Alors, et puis j'ai fait les nouvelles pendant 4 ans à Salut Bonjour avec Guy Mongrain. Et puis les gens appelaient, si j'avais le malheur de porter le même vêtement aux 2 semaines, bien les gens appelaient pour dire qu'elle est toujours habillée pareil.
Ah, c'est cruel. La télé, ça peut être cruel.
C'est très cruel. D'ailleurs, je suis très contente, moi, d'avoir quitté TVA en 2008, à l'époque où le HD a commencé à arriver sur nos écrans.
Je me souviens je perds son nom de famille, mais elle s'appelait Véronique, elle travaillait à TVA, puis par la suite, elle est devenue...
Véronique Tremblay.
Véronique Tremblay, puis elle mentionnait lors d'une entrevue que... Les gens étaient extrêmement cruels. Si elle avait le malheur de se faire couper les cheveux, puis il y a des gens qui n'aimaient pas ça, ben on lui écrivait pour lui dire que ses cheveux plaisaient pas à tout le monde. Même affaire pour ce qui est du maquillage, ouais. Même affaire pour ce qui est des vêtements. Alors que pour les Absolument. Gars, jamais on a ce genre de commentaires-là.
Mais non. Mais non. Écoutez, Yannick, je nommerai pas de nom, là. Mais il y a quand même des journalistes, que ce soit à TVA ou à Radio-Canada, qui étaient en onde pendant des années. Puis que si une femme avait eu l'air de ça, elle n'aurait jamais été à la télé.
Ah ouais.
Je m'excuse de dire ça crûment, mais c'est la vérité, n'est-ce pas?
Ah ouais, voyez-vous, c'est la première fois que j'entends ça.
Mais c'est parce qu'avec moi, vous allez entendre que des vraies choses.
Ben oui, c'est ça. Mais est-ce que de vous adapter justement à cette lentille-là, est-ce que ça a été compliqué?
Ben non, comme je vous dis... C'était à prendre ou à laisser. À partir du moment où mon patron me dit « Jocelyne, descends au maquillage, maquille-toi puis fais-toi coiffer », ben, j'ai accepté parce que je voulais continuer de faire mon métier quand même. Et puis de toute façon, c'est un détail le maquillage et la coiffure. Ça devient très important pour l'image, mais c'est quand même un détail, en tout cas c'est un détail dans ma vie là.
Ouais. Mais ma question était plus du sens où, quand je suis en studio, je parle avec mes collègues, mais je parle au micro, bien entendu. Les gens sont dans leur véhicule, entendent ce que je dis, mais je ne regarde pas ces gens-là. Là, de votre côté, vous êtes seul dans un studio de télé. C'est une lentille qui vous regarde.
Non, j'ai jamais été seul. D'abord, moi, j'ai travaillé sur le terrain. Puis quand je faisais les nouvelles, j'avais quand même 3 caméramans devant moi. Mais il faut, vous savez, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a donné le truc, Jocelyne, parle à une personne à qui tu as envie de raconter les nouvelles.
Ah, voilà.
Et c'était un peu comme ça, c'était un peu comme ça que je visualisais, si vous voulez, la lentille. Mais il y avait quand même les gars derrière la caméra qui étaient là, qui existaient, puis le régisseur aussi. Donc, je ne me suis jamais sentie seule à la télé, moi.
Vous avez été correspondante parlementaire aussi?
Oui. Et j'ai hâte que vous me parliez de mon livre, là.
Oui, je vais vous en parler.
Le temps passe.
Inquiétez-vous pas. Vous avez été correspondante parlementaire aussi?
Oui, j'ai été correspondante parlementaire à Québec en 1985-86. Et je n'ai pas vraiment aimé ça. Et puis finalement, j'ai eu une offre de Paul Arcan, qui était directeur de l'information à l'époque à CJMS. Et là, j'ai appelé mon patron à TVA pour lui dire « Écoute, je suis déchirée, j'ai une offre à la radio pour devenir patronne, je voudrais quand même te le dire. » Et puis là, mon patron, Serge Bellerose, à l'époque, a dit « Non, 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 tu t'en reviens à Montréal si tu n'aimes pas être à Québec. » Alors, je suis revenue à Montréal, je suis restée à TVA.
Et par la suite, bon, il y a eu JE, il y a eu plein d'autres émissions avec Jocelyne.
C'est-à-dire qu'avant JE... J'ai été présentatrice des nouvelles à Salut Bonjour pendant 4 ans.
Ouais.
J'ai été reporter au Match de la vie à l'émission de Claude Charron. J'ai fait les nouvelles les fins de semaine aussi. Je remplaçais Pierre Bruno ou Jacques Moisan quand ils s'absentaient pour leurs vacances. D'ailleurs, j'ai été aux premières loges de la crise d'Oka en 1990, tout l'été de 1990, parce que je remplaçais Pierre Bruno à l'époque.
Qu'est-ce qui fait que Jocelyne Cazin en 2008...
Puis après ça, il y a eu JE.
Oui. Qu'est-ce qui fait que Jocelyne Cazin en 2008 a décidé de s'accorder une pause plaisir puis de quitter la télé?
Alors, je vais encore vous dire les vraies affaires. En 2008, j'étais depuis 2 ans, pas chroniqueuse, mais éditorialiste à LCN le matin.
Oui.
Et moi, mon rôle d'éditorialiste, j'ai pas vraiment... aimer ça parce qu'il fallait avoir une opinion tous les jours sur un sujet, hein? comme certains éditorialistes le font, mais c'était pas vraiment dans ma tasse de thé. Moi, je suis plus une journaliste de terrain, comme je l'ai été toute ma vie. Alors, et puis aussi, je me suis dit, tiens, avant qu'on monte la porte, je vais la prendre moi-même.
Donc, ça a été une décision que vous avez prise. Est-ce qu'avec du recul, vous auriez peut-être dû garder encore quelques années de télé?
Ben oui, vous avez raison de dire ça, parce que d'abord, j'avais 57 ans. Alors, je suis partie 3 ans avant ma pleine retraite.
Ouais.
Et puis, oui, disons qu'avec le recul, vous savez, on fait bien les choses. Hein?
Ben oui, ben c'est sûr. Faut pas vivre dans le passé non plus. Puis en 2014, vous avez publié un premier livre qui s'appelle J'ose déranger.
Oui, ah ben oui, puis je peux vous dire que quand j'ai dit ça à mes amis, que le livre allait s'appeler J'ose déranger, ils m'ont dit, mon Dieu, c'est tellement toi.
Et là...
Parce que j'ai osé déranger toute ma vie.
Ouais. Et là-dedans, vous parlez de retraite, vous parlez de bénévolat, de responsabilisation, des relations peut-être particulières que vous aviez avec vos parents, puis des deuils que vous avez faits dans votre vie, entre autres le deuil de votre ami Gaétan Giroir.
Oui, de Gaétan.
Y pensez-vous encore, à Gaétan?
C'est un essai.
Oui.
Ah, j'y pense constamment. Vous savez, il n'y a pas une journée ou une semaine qui ne passe et où on ne me fait pas penser à Gaétan parce qu'on m'associe évidemment à l'émission JE. Puis quand on m'associe à l'émission JE, bien, par conséquent, on m'associe à Gaétan Giroir, qui a été quand même un grand ami, puis qu'on co-animait l'émission ensemble. Alors, c'est sûr que je ne pourrai jamais oublier Gaétan Giroir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un excellent documentaire qui a passé en janvier dernier,
ouais,
sur les 25 ans de décès de Gaétan. Alors, je pense que ça, c'était quand même... un bon documentaire qui explique toute la dynamique de Gaétan, parce qu'il y a encore trop de gens qui s'imaginent que Gaétan ne s'est pas suicidé, alors que je sais très bien qu'il s'est suicidé. Gaétan était dans une profonde dépression et malheureusement, on n'a pas su le diagnostiquer à temps, alors il en est mort.
Ouais, dans le documentaire, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on voit des images de Gaétan Giroir et de vous aussi, là, où on voit Gaétan souriant, qui a de l'air bien et tout ça. T'sais, le visage du suicide, là, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps triste constamment. Là.
Vous vous souvenez dans le documentaire où je présente une cassette d'une conférence qu'il avait donnée quelques jours auparavant.
Ouais.
En tout cas, je ne me souviens plus de la municipalité, et où il disait qu'il était à quel point il était heureux. Et puis ça, c'était quelques jours avant son suicide. Alors, il faut le faire quand même.
Alors, il faut toujours rester alerte, mais c'est ça. Dans son cas à lui, effectivement, sur les images qui ont été rendues publiques dans ce documentaire-là, ça laissait pas présager qu'il pouvait faire un geste comme ça. C'est de voir sa conjointe de l'époque, ses enfants aussi. C'était un beau documentaire, ça.
Oui, tout à fait.
Madame Cazin, là, vous avez 4 livres à votre actif et le dernier s'appelle, je l'ai dans les mains, « Funeste récolte ». Jocelyne Cazin a décidé d'être auteur maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en vous, dans vos idées, là, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis à un moment donné, ben c'est le temps, on écrit notre fameux livre?
Vous allez dire, coudon, on vient toujours te chercher. Non, c'est l'éditeur Erwan Lesseul de Flammarion Québec qui, après avoir lu mes 2 premiers livres, « J'ose déranger ma véritable identité », est venu sonner à ma porte et m'a dit, « Jocelyne, il me semble que je te verrais écrire un roman. » Alors, j'ai écrit mon premier roman en 2022, c'est-à-dire qui a été publié en 2022 et qui s'appelle « Pire que l'éternité », qui est l'histoire d'une journaliste d'enquête. Je suis pas trop sortie de ma zone de confort dans ce livre-là. Ce livre-là, c'est quand même assez bien vendu. Et alors, il m'a demandé d'en écrire un autre. Et Funeste récolte, alors là, c'est une fiction réaliste. C'est l'histoire de 2 détectives privés qui vont enquêter sur la disparition mystérieuse de 5 travailleurs temporaires étrangers guatémaltèques d'une ferme de Saint-Valérien de Milton. Et là, évidemment, c'est toute une saga qui commence. On entre dans le milieu agricole illicite. On entre dans le domaine des agences de placement illégales. On entre dans le domaine du dark web, dans le domaine de la criminalité. Et si vous avez mon livre entre les mains, Yannick, vous avez sûrement vu que j'ai beaucoup de remerciements parce que j'ai travaillé avec une détective privée, j'ai travaillé avec un enquêteur au crime majeur, j'ai travaillé avec une paramédic, j'ai travaillé avec plein de gens qui m'ont aidé à rendre ce livre-là crédible. Et évidemment, la journaliste d'enquête que je suis encore dans mon âme, je suis allée à Dundee parce que j'ai travaillé avec Stéphane Gendron qui m'a beaucoup aidé. Vous savez qui est Stéphane Gendron?
Bien sûr, l'ancien maire de Huntingdon.
Oui. Bon, ben lui, là, il me racontait justement qu'il voyait des migrants illégaux passer par par la rivière, c'est-à-dire le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-François. Il m'a montré des places où les migrants illégaux arrivent malheureusement les deux pieds devant. Et tout ça, c'est réel. Hein. Alors, moi, mon livre, c'est de la fiction, mais ça part de la réalité malheureuse que vivent ces migrants étrangers. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, il y a même eu un rapport de l'ONU qui considère que le Canada est une terre fertile à l'esclavagisme moderne à l'égard des travailleurs temporaires étrangers. Et j'en parle même dans mon livre de ça.
Donc, malgré tout, alors, malgré tout,
Madame
Cazin, je suis en train de vous perdre présentement.
Oui.
Oui, je suis en train de vous perdre.
Ben oui, comment ça se fait?
Oh, je sais pas. Madame Cazin, on va prendre une...
Il faut pas qu'on se perde, là.
Non, ben, savez-vous quoi? On va faire juste une petite pause. On va tenter de rétablir le lien convenablement. Puis, on va revenir pour 5 à 10 minutes. Ça vous va?
Oui.
Parfait, merci. On fait une courte pause. Absolument. Et on vient tout de suite. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec l'ex-reporter et personnalité média Jocelyne Cazin qui nous parle de son livre « Funeste récolte ». On revient tout de suite.
Marceau, le soir. Marceau, le midi.
Salut, c'est Marceau. Vous le savez, ce vendredi, au Centre Horizon, je me bats contre Steven Sullivan, alias Gros Gorille de la Ligue NSPW pour amasser des fonds pour la fameuse bouchée généreuse. La gang de Boulevard 102.1 va être présente et le groupe Big Muff Party Band va être là aussi et vous donnera tout un show. On parle d'un show rock des années 90 à 2000. Bref, une soirée pour venir me huer et ou m'acclamer. L'important, c'est de remettre un beau montant aux gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour manger à leur faim. Achetez vos billets sur lepointdevente.com et l'argent, tout l'argent des billets va être remis à l'organisme La Bouchée Généreuse. Donc, un rendez-vous ce vendredi, 20h, au Centre Horizon.
Pour ton rattrapage de Marceau le midi, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
Boulevard 102.1.
Avant la fin de l'automne, je vais passer une dernière fin de semaine au camping, racler le terrain, vider la piscine, préparer la headset pour l'hiver, monter l'abri, magasiner l'équipement de hockey pour mon gars, prendre des cours de conduite pour ma fille, faire un tour au Saguenay, faire le ménage en cabanon, aller au port.
Vous êtes débordé cet automne? Laissez nos experts s'occuper de votre changement de pneus d'hiver. Planifiez votre rendez-vous en ligne avec les concessionnaires services certifiés Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac avant le 30 septembre et obtenez sans frais 3 mois d'accès au plan véhicule connecté d'OnStar ou de Sirius XM. Profitez de l'offre en prenant rendez-vous en ligne au monservicecertifié.ca.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercado.fm.
Obtenez une boîte découverte de 3 repas d'une valeur de 135 $ pour 67,50 $ chez Farine et Basilic.
Adjugé, prochaine offre.
Procurez-vous une carte cadeau de 50 $ pour 25 $ chez Pizzidélique Cartier.
Adjugé à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Des bas bruns, une cravate? Pas vraiment. Chez Mallette, on porte surtout plusieurs chapeaux. Fiscalité, notariat, juridique, actuariat, intelligence d'affaires, immigration. Découvrez tous nos services au mallette.ca. Mallette, des comptables et bien plus.
Bonne fête, ma grande! 10 ans déjà.
C'est parce que j'ai 14 ans, maman.
Elle est bonne.
Ça grandit vite, un enfant. Cotisez à un régime enregistré d'épargne-études de Desjardins dès maintenant.
L'automne peut rendre les routes imprévisibles. Alors, retrouvez le plaisir de conduire intégral dans un audacieux Kia Sorento redessiné. Sa traction intégrale avec sélecteur du mode de conduite affrontera les routes couvertes de feuilles, de boue et même de neige. Son hayon électrique intelligent à main libre permet de charger facilement les bagages pour les sorties en plein air. Et son habitacle spacieux peut accueillir jusqu'à 7 passagers. Vivez le meilleur de chaque saison avec le plaisir de conduire intégral du Kia Sorento. Visitez Kia.ca.
Kia. Du mouvement vient l'inspiration. C'est la saison des rituels au Stromspa Nordique. Pour l'occasion, à l'achat de 3 entrées à l'expérience thermale, obtenez la 4e gratuitement. Détails au stromspa.com.
Tu es un électricien compagnon en recherche d'emploi et tu aimerais travailler pour une entreprise dynamique qui offre des horaires flexibles, un camion fourni et les avantages CCQ commercial?
Ben, ne postule surtout pas chez E3 Électricité. La job serait trop le fun. E3électricité.ca.
Ce solo de guitare est excellent, car le bois de cette guitare emprisonne le carbone. Et ça, c'est excellent. Du bois, c'est plus que du bois. Un message du Conseil de l'industrie forestière du Québec avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Vous connaissez un étudiant qui veut la tranquillité d'esprit sans se ruiner et sans compromis sur la qualité? Ben, ça tombe bien! Lévis Mazda vous offre la Mazda 3 2025 en location 48 mois à 89 $ par semaine avec un léger acompte de 835 $. Disponible en option avec la traction intégrale ou en version sport, 5 portes ou encore avec un moteur turbo compressé de 250 chevaux. Il y a une Mazda 3 2025 pour le passionné de conduite en vous. Et n'oubliez pas, chez Lévis Mazda, on s'occupe de vous.
Parce qu'en 2024, un ordinateur, c'est pas mal plus commun qu'un Walkman jaune.
Sony. Walkman.
Votre web radio au blvd.fm.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Ce soir, on a le plaisir d'être accompagné de Jocelyne Cazin, l'ex-reporter qui est maintenant auteur depuis plusieurs années. Madame Cazin vient nous présenter son livre « Funeste récolte ». Madame Cazin, est-ce que votre livre est disponible présentement ou il va sortir dans les prochains jours?
Écoutez, là, dans 48 heures, alors stay tuned, restez à l'affût. Le 26 septembre, le livre va être dans toutes les bonnes librairies et j'espère qu'il va avoir une bonne réception parce que jusqu'à maintenant, je peux vous dire que j'ai eu quand même des bons commentaires. On me dit que c'est un page-turner. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti en lisant le livre, Yannick, mais c'est un livre qui se lit facilement parce que les caractères sont quand même assez gros. Et puis, bon, il y a 312 pages, alors c'est quand même pas... on ne peut pas appeler ça une grosse brique. Et puis, les chapitres sont assez courts aussi. Alors, chaque chapitre vous amène à un autre, mais chaque chapitre a son propre vécu aussi.
Oui, puis ce qui m'impressionne, c'est que malgré toutes vos années de journalisme où vous avez côtoyé des enquêteurs, vous avez acquéri énormément d'expérience, vous avez quand même été rencontrer des détectives pour en savoir peut-être un peu plus sur leur métier. Vous avez été voir des agriculteurs, vous avez parlé de Stéphane Gendron tout à l'heure, donc il y a énormément de travail là, en arrière de ce livre-là. Ça peut être une belle fierté, ça.
Ben, écoutez, moi, j'ai fait vraiment un travail journalistique pour que ce livre-là se tienne, soit crédible, parce que ce n'est quand même pas rien de parler des migrants illégaux, des travailleurs temporaires étrangers qui vivent dans des fermes. Et je veux vous dire aussi en passant que la majorité des agriculteurs au Québec sont tout à fait honnêtes et traitent très bien leurs travailleurs temporaires étrangers. Mais comme dans n'importe quel métier, comme dans le nôtre, comme dans n'importe quoi, il y a toujours des pommes pourries quelque part. Et ça existe vraiment, des agriculteurs qui maltraitent leurs travailleurs temporaires étrangers pratiquement comme des esclaves, où les campements sont insalubres, où ils mangent mal. Bref, ça n'a aucun espèce de sens. Mais pour revenir un petit peu sur la trame de mon livre, alors effectivement, c'est qu'il y a les deux détectives privés qui sont à la recherche des 5 travailleurs temporaires étrangers qui ont disparu. Est-ce qu'ils ont disparu volontairement ou est-ce qu'ils ont été kidnappés? C'est ce qu'on apprend dans le livre. Et parallèlement à ça, il y a une autre enquête par une enquêtrice de la Sûreté du Québec au crime majeur qui, elle, enquête sur le meurtre d'un fermier. Et là, on se demande, est-ce qu'il y a un lien entre le meurtre de cet agriculteur-là et la disparition des 5 travailleurs temporaires étrangers? Alors, évidemment, c'est une intrigue là, qui se passe là, d'une page à l'autre et on en apprend de plus en plus, puis on a le souffle court parfois.
Écrire un livre, ça peut être parfois... vous avez une certaine expérience, mais ça peut être parfois difficile là, d'être capable de tout créer l'intrigue et mettre ça sur 300 pages. Moi, j'ai pas lu les 300 pages. J'ai reçu le livre hier. J'ai lu une quarantaine de pages, puis je trouve ça... Je le trouve franchement intéressant. Est-ce que vous avez fait appel à un écrivain pour vous assister dans votre écriture?
Alors, excellente question, parce que j'ai eu un collaborateur qui s'appelle Bertrand Laverdure, qui est un poète, un écrivain. Il a même, je crois qu'il a 26 ouvrages à son actif. collectif. Et lui m'a aidé, à partir de Pire que l'éternité, mon premier roman, il m'a aidé justement à formater mon récit au niveau de la syntaxe, au niveau des descriptions, au niveau des chapitres également, au niveau de l'intrigue. Il m'a aidé, vraiment, il a été d'une grande aide, parce que je pense que sans lui, je n'y serais pas arrivée, parce que moi, je ne suis pas romancière au départ, je suis journaliste. Alors évidemment, j'écris mes textes comme une journaliste, si vous voulez, très synthétiser tout ça. Alors que là, ben, il a fallu que je me transforme quand même en romancière. Alors, je salue Bertrand Laverdure, qui a été vraiment d'une grande, grande aide pour moi.
On s'imagine que ce n'est pas votre dernier livre, qu'il y en aura prochainement d'autres?
Ben, Victor et Blaise, qui sont les deux détectives privés, ont déjà d'autres enquêtes dans leur besace. Alors, j'espère que si ce livre-là se vend bien, Funeste récolte, qu'on fera vivre à nouveau Blaise et Victor dans une autre aventure criminelle.
On comprend que la retraite, c'est pas pour Jocelyne Cazin. Elle doit toujours trouver quelque chose pour travailler, je pense.
Bon, alors là, on va dire les vraies affaires encore une fois. Yannick, moi, je donne une conférence qui s'appelle La retraite, point d'interrogation, quelle retraite, point d'exclamation. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que je suis à la retraite de mon entreprise, ouais, en ce qui me concerne TVA, que je suis en retrait. Je fais autre chose. Et je pense que la nouvelle génération qui s'en vient, puis la mienne aussi, parce qu'il y a de plus en plus de gens de 70 ans et plus qui sont encore très actifs, mais je pense que les nouvelles générations n'arrêteront pas nécessairement de travailler dans le vrai sens du terme, mais en plus, on est en pénurie de main-d'œuvre. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on a envie de se maintenir actif intellectuellement et physiquement, il faut avoir des projets, il faut être capable de faire autre chose. Il y a le bénévolat, moi je fais aussi du bénévolat auprès des jeunes que je mentore. La sclérose en plaques, c'est aussi une de mes causes. Bref, tant que je serai en vie, que j'aurai la conscience, que je serai en santé, c'est certain que je vais vous déranger encore.
Ah ben nous, ça nous fait plaisir, on vous aime bien. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir une Jocelyne Cazin revenir à la télé?
Ben là, franchement, là...
Je trouve ça dommage, ça, parce qu'aux États-Unis, je vois régulièrement des animateurs et des animatrices qui sont à 60, 70, même ben, 80 si. Ans. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, on n'est pas capable d'avoir nos aînés, ouais, nos gens d'expérience à la télé longtemps?
Ouais, ben, à moins d'être bien, bien pas toxé, là. D'ailleurs, on en voit de plus en plus, là. Je pense que le Botox, ça fait partie du forfait, en tout cas. Là, je suis ma méchante. Mais non, honnêtement, je n'ai pas d'intérêt à revenir de façon quotidienne et même hebdomadaire. Par contre, moi, j'ai fait une chronique maintenant à la radio. C'est peut-être une compétition chez vous, là, mais avec Geneviève Peterson, là, dans une autre station de radio, une fois par deux semaines. Alors, c'est bon parce que ça me tient encore, comme je vous dis, en vie intellectuellement. Ça me tient sur la touche aussi. Je ne veux pas, moi, qu'on s'ennuie trop de moi. Alors, effectivement, de temps en temps, je pourrais faire ça chez vous, à votre station de radio, de temps en temps, de chroniquer sur différents sujets de la vie ou sur ce qui se passe en Floride. Ça va être très, très actif aux États-Unis dans les prochains mois. D'ailleurs, ça a commencé à l'être un petit peu.
Ouais. Puis, êtes-vous toujours attentive à ce qui se passe au niveau de la politique, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, même international, comme Donald Trump et Kamala Harris qui vont se disputer la présidence?
Ah oui, j'ai écouté le débat. Écoute, honnêtement, là, le nombre d'insanités que ce monsieur-là a pu sortir dans un débat de 90 minutes, mais ça n'a aucun sens. Mais ce qui a encore plus aucun sens, Yannick, c'est de voir qu'il y a autant d'Américains qui vont encore voter pour cet être-là. Ça n'a pas de sens.
Mais pour les Américains, parce que veux pas, c'est quoi? C'est pratiquement la moitié, si on regarde les sondages, pratiquement la moitié des États-Unis qui vont voter pour Donald Trump versus la moitié qui voterait, et peut-être plus, là, pour Kamala Harris. Je veux dire, ces gens-là doivent avoir leurs propres raisons. Là. Nous, on regarde les débats, puis on essaie de se faire une idée sur le candidat et la candidate. Mais pour eux, on n'habite pas là. Vous, vous avez la chance de voir ce qui se passe là quand vous allez passer quelques mois là pendant l'hiver. Vous êtes chanceuse. J'aimerais ça être avec vous, avec Jocelyne Cazin, pour passer mes hivers en Floride.
Il y a quelques avantages à avancer en âge.
Oui, c'est ça. Bien, j'imagine que les Américains ont leurs propres raisons là, de vouloir voter pour Donald Trump.
Oui. Mais ce qui se passe, c'est que Donald Trump, lui, il est extrêmement populiste. Hein? Il se montre près du peuple, il se montre près des gens qui ont moins d'argent, qui sont plus démunis. Et puis, ce qui est complètement faux, d'ailleurs, parce que j'ai vécu à Naples pendant 10 ans. Naples, c'est sur la côte ouest de la Floride, c'est près de Fort Myers. Et je peux vous dire que Naples, c'est un des endroits les plus riches des États-Unis et c'est extrêmement républicain et conservateur. Alors, cherchez l'erreur, mais il parle money stalking. Hein, il parle d'argent, puis à partir du moment où vous parlez d'argent, c'est certain qu'il va chercher son monde. Mais aussi, moi, je pense que c'est... Je m'excuse de dire ça comme ça, mais je pense que c'est comme une secte. Hein, c'est... Souvenez-vous de... Bon, évidemment, vous ne vous en souvenez pas, mais si vous connaissez un peu l'histoire avec Hitler... Qui allait chercher son monde, la masse. Puis vous savez qu'une masse, hein, une foule, a apparemment, puis c'est pas moi qui l'invente, a apparemment 4 ans d'âge mental. Alors, évidemment, il est capable d'aller chercher cette foule-là, Donald Trump, qui a 4 ans d'âge mental, puis il est capable de les brainwasher, hein, de leur laver le cerveau, et puis de leur dire exactement ce qu'ils ont envie d'entendre.
La beauté de la chose, c'est que c'est toujours clair vos propos et si vous étiez américaine et que vous ayez le droit de vous voter, on comprend que ce ne sera pas pour Donald Trump.
Ah ben non, absolument pas. Vous savez, Kamala Harris n'est pas parfaite non plus, le Parti démocrate encore moins, mais à choisir, c'est certain que moi, je voterai pour Kamala Harris, mais de quoi je me mêle? Je ne suis pas américaine.
Madame Cazin, ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous pendant 60 minutes. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée, puis on invite les auditeurs à se procurer votre nouveau livre qui sera disponible dans les prochains jours, Funestre récolte, qui sera disponible dans toutes les bonnes librairies. Je pense que c'est ce qu'il faut dire.
Funeste récolte chez Flammarion Québec, effectivement, dans toutes les bonnes librairies, chez Walmart et probablement, si vous voulez l'acheter en ligne, il n'y aura pas de souci aussi.
Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. On se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1 et on se retrouve demain 10h pour ce qui est de l'open mic. Merci d'avoir été là. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Vous voulez un VUS avec du style, doté d'une super traction intégrale et de la meilleure garantie de l'industrie? Découvrez le Outlander 2024 offert à 1,99% en location 24 mois chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi. Pourquoi pas une location 24 mois? Si vous ne connaissez pas déjà la qualité d'un véhicule Mitsubishi, ceci vous permettra de pouvoir l'adopter et si vous êtes déjà un adepte, vous n'hésiterez pas. La meilleure destination pour une Mitsubishi, c'est chez Sainte-Foy Mitsubishi, 2830 rue Einstein et Québec Mitsubishi, 1000 boulevard Pierre-Bertrand.
C'est lequel ton plat favori chez Cora?
C'est celui à 15$.
Ben là, t'es drôle, toi. L'omelette épinard cheddar est à 15$. La gaufre aux bananes est à 15$. La cassolette 10 étages est à 15$. Le bénédictine jambon est à 15$. Et le déjeuner surprise est aussi à 15$.
C'est en plein ça. Celui à 15$.
Venez savourer l'un de nos 5 plats à seulement 15$. Jusqu'au 6 octobre, en salle à manger seulement. Moi, je déjeune chez Cora avec la promotion Nos favoris à 15$.
Lundi, préparez la présentation client. Mardi, révisez la présentation avec Pierre. Mercredi, gérez les regards insistants de Pierre. Jeudi, faire semblant de rire aux allusions sexuelles de Pierre. Vendredi, avoir peur d'aller au travail à cause des avances de Pierre.
Le harcèlement sexuel ne devrait jamais faire partie de votre horaire de travail. Si vous croyez en subir ou que vous en êtes témoin, il faut en parler. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons ensemble pour créer des milieux de travail sains et respectueux. Un message de la CNESST.
Avec le service Internet illimité de Rogers, maintenant disponible au Québec, rien n'est à votre épreuve. Comme donner accès au Wi-Fi à vos enfants et tous leurs amis, ou les trouver devant un jeu vidéo et non dehors dans la cour. Ce que vous voulez, c'est une connexion fiable et rapide en tout temps. Comme l'Internet de Rogers, maintenant disponible au Québec, à partir de $44.95 par mois pour un temps limité. Visitez rogers.com ou rendez-vous en magasin pour les détails. Rogers, là on jase.
L'appli Boulevard 102 pour écouter en direct le rattrapage des émissions et des podcasts. Au gym, à shop, puis même dans ta douche. L'appli Boulevard 102.
Boulevard 102.
En 1949, les véhicules étaient loin d'être parfaits. 75 ans plus tard, ils ne sont pas encore parfaits. Mais heureusement, pour les réparer, les entretenir et bien les chausser, il y a des harnais. Et avec l'offre de paiement sur 6 mois sans frais ni intérêt, c'est juste parfait.
Jusqu'au 20 décembre, obtenez une remise allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Pour la tranquillité d'esprit en toutes circonstances, Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Détails et prise de rendez-vous sur desharnais.ca.
Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais.
Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale d'Isabelle. Je ne peux vous répondre pour l'instant parce que je suis au Strom pour une journée déconnexion. C'est une fois par année, payée par la job et c'est aujourd'hui. Alors, ben namasté tout le monde.
La journée déconnexion. C'est un jour de congé et l'entrée à l'expérience thermale offerte par votre employeur. Détails au stromspa.com/journée-déconnexion.
Des bas bruns, une cravate? Pas vraiment. Chez Mallette, on porte surtout plusieurs chapeaux. Fiscalité, notariat, juridique, actuariat, intelligence d'affaires, immigration. Découvrez tous nos services au mallette.ca. Mallette, des comptables et bien plus.
Prolongez l'été avec le meilleur de la restauration sur Grande Allée. Un bon cocktail, un tartare, une ambiance incontournable, c'est l'atelier. Savourez un repas entre amis ou réservez pour votre party de bureau. Et pour une expérience terre-mer incomparable à Québec, c'est au restaurant Ophélia. Laissez-vous séduire par nos plats soigneusement préparés et notre carte de vin d'importation privée. Venez profiter de nos terrasses couvertes et chauffées. L'été n'est pas fini à l'Ophélia et l'atelier. On se donne rendez-vous sur Grande Allée.
Lévis Subaru a en stock plusieurs Solterra 2024 électriques à traction intégrale. Le VUS électrique parfait pour nos hivers. Profitez maintenant d'un rabais de 17 000 $, incluant le rabais gouvernemental pour une durée limitée. Détails en concession. Choisissez le vôtre. LévisSubaru.com.
Boulevard 102.1.
Gratis. Spotify 10,99 par mois. Patreon 5 $. Abonnement au câble 55 $. Journal 24 $.
Boulevard 102.1.
Gratis.
La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité, puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0 $.
Gratis.
Application gratuite, web radio gratis, FM gratis.
Boulevard 102.
Gratis.
La vraie solution à l'inflation.
C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Ça, c'est du rock.
Excellent mardi, 24 septembre. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Max Larouche s'installe avec vous pour à peu près une heure durant laquelle on va s'offrir le meilleur de la musique en ville. On va aussi entendre, écouter ensemble, du moins, un petit bout de la plus récente de Linkin Park, sortie il y a quelques heures à peine, Heavy is the Crown, la deuxième avec Emily Armstrong, la deuxième depuis ce grand retour de Linkin Park. Fait qu'on va écouter ça ensemble dans les prochaines minutes, mais tout de suite, on va se lancer en séquence rock. Smash Mouth sera le Walking on the Sun, Fastball, Garbage, Three Days Grace avec Animal I Have Become, les Rock Hunters avec Steady As She Goes et tout de suite du bon vieux live. Selling the Drama à Boulevard.
Into love, the God, into fear, the flame, and to burn the crowd.